gris du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois, micro. Je nous vois tous des artistes quand on est hop, quand on se fait de la musique et que ça fait pop, chantait Claude Dubois. Eh bien, notre invité du jour a su lui tenir le rythme de la musique, malgré des activités bien éloignées du monde du spectacle. Au gré du temps, il a cumulé plusieurs responsabilités, commissionnaire, fonctionnaire fédéral, administrateur pour Affaires mondiales Canada, évaluateur pour la Société d'assurance automobile du Québec, et des postes qui relevaient du niveau de sécurité 2, c'est-à-dire avec des mandats devant demeurer secrets. Vous allez me dire, tout cela est bien loin de la musique, bien sûr. Et pourtant, depuis l'âge de 7 ans, il souhaitait faire de la musique et il a trouvé le temps de réaliser son rêve. Je vous présente avec grand plaisir Pierre Bellefeuille. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Dubois. Ça fait un grand plaisir de vous rencontrer à la radio.
Oui, et nous de vous découvrir parce que quand on vous présente de la sorte, honnêtement, c'est assez singulier. C'est rare qu'on présente un musicien avec une feuille de route qui n'a rien à voir avec la musique.
Je comprends tout à fait. J'ai un parcours très, très varié depuis mon tout jeune âge. J'ai une formation très large dans différents domaines, dont les sciences humaines, la musique, les arts visuels, le graphisme. Donc, tout ça m'a amené à enrichir mes expériences et continuer d'explorer ce qui me plaît le plus dans la vie, c'est-à-dire la création.
Parlons d'abord de ce contexte familial. Je disais que la musique, il y a eu comme un éclair de génie peut-être qui est survenu à l'âge de 7 ans où vous avez eu comme l'envie soudaine d'apprendre un instrument de musique. Quel était le contexte dans lequel vous avez grandi? Des frères, des sœurs?
Oui, j'ai un frère qui a enseigné la philosophie pendant 30 ans, qui a une formation en droit à l'Université McGill. J'ai deux sœurs, une qui travaille à Montréal. Et au sein de la famille, je suis le seul là, vraiment qui a été dans le domaine de la musique et des arts visuels. Bien que mon frère était extrêmement doué déjà dès le secondaire 1 pour le dessin, au fusain, il pouvait reproduire des dessins hyper réalistes qui étaient absolument superbes. Ses professeurs d'art lui disaient d'aller aux Beaux-Arts immédiatement. Il avait vraiment un talent, une grosse coche sur beaucoup de gens.
Est-ce qu'il y avait des gènes parentaux dans tout ça? Est-ce que votre papa, votre maman étaient associés au domaine des arts de près ou de loin?
En fait, c'est très personnel. Moi, mon père est mort devant moi quand j'avais 4 ans et demi.
Et, oh là là.
Ça a fait de moi un artiste, je crois, bien honnêtement, là, ça change une perception de la vie de beaucoup. Et plus jeune, je me rappelle, je devais avoir 3 ans et demi ou 4 ans, je voulais jouer sur sa guitare acoustique.
Donc, papa jouait de la guitare.
Un peu, mais il ne me l'avait pas autorisé. Et quand je suis arrivé à l'école primaire, on avait annoncé des cours de guitare classique avec Denis Codling, qui donnait des cours, lui, à l'auditorium Georges Codling à Sorel. Et c'était une occasion pour moi de satisfaire ma curiosité et de commencer mes premiers rudiments à la guitare classique. On était 4 élèves en même temps. Il y avait une grande salle de concert avec tous les instruments d'orchestre qui étaient déjà là. Et mon premier réflexe était d'aller, bien sûr, comme bien des enfants, aller explorer les différents instruments, dont la batterie.
Bien sûr. Ça fait du tapage. On aime ça.
Exactement. J'ai toujours eu cette curiosité-là. Et même aujourd'hui, quand je fais de la musique, je retrouve le même plaisir que j'avais à l'âge de 7 ans, d'expérimenter, d'explorer les sons. Ça reste quelque chose de très, très spontané comme processus. Mais bien sûr, par la suite, j'ai fait une formation en musique classique qui a été extrêmement formatrice au Collège Marguerite Bourgeois au début des années 1980. Mais, j'ai commencé la guitare à l'âge de 7 ans. C'était de la guitare classique. J'avais une petite main pas très forte. J'ai délaissé pour reprendre à l'âge de 13 ans et faire de la musique populaire avec mes amis à l'école secondaire Fernand Lefebvre. J'étais pas particulièrement doué, je dirais, pour reproduire les sons que j'entendais. J'ai toujours eu ce besoin-là, je dirais, je ne sais pas d'où ça me vient, mais de créer mon propre matériel. Très, très jeune, ça.
Donc, alors, vous parlez de propre matériel. On va avoir l'occasion de découvrir cela au cours de la prochaine heure. Et on va tout de suite attaquer. Dans le fond, on va partir ensemble en vacances. Vacances dans le Sud. Oui. Tel est le titre de votre composition. Et vous, à l'écoute, eh bien, vous allez découvrir un univers assez particulier. Vacances dans le Sud, composition de Pierre Bellefeuille, notre invité du jour. On vient de découvrir le type de musique dans laquelle vous baignez. Mmh. C'est presque, et je ne veux pas faire insulte à votre esprit créatif, mais on pourrait dire qu'on se retrouve dans un genre qui ressemble à ce qu'on a appelé à une certaine époque le Nouvel Âge.
Oh oui, oui, c'est fort possible. Mais vous savez, les titres de mes pièces musicales viennent par après-coup. Je n'ai pas le titre d'emblée. Je compose de façon très, très spontanée. Oui. Et c'est souvent le processus pour moi est très simple. Je m'installe à la guitare, j'improvise. J'improvise tout le temps. Et il vient un temps où les accords tombent en place et là, par la suite, j'organise le matériel. Parfois, une série d'accords, une harmonie qui ressort d'une pratique d'une heure ou deux, trois heures, des fois en ligne. Et je pense que c'est du bon matériel. Le lendemain, je réécoute, je dis non, c'était pas si bon que ça finalement. Alors, je reprends, je recommence et puis je finis par broder quelque chose, trouver quelque chose qui, si j'y vois pas mon intérêt, je garde ça comme un, dans mes enregistrements, comme j'oserais dire un gros cahier d'esquisse musicale. Et puis, je peux revenir plus tard pour essayer de voir si je peux en retirer quelque chose.
Donc, et une fois que vous avez la ligne mélodique,
oui.
Je présume qu'à ce moment, vous vous mettez sur les instruments, c'est-à-dire des synthétiseurs, des instruments électroniques de toutes sortes.
Exactement. Je travaille essentiellement sur les ordinateurs Macintosh avec Logic Pro. Et je vais... essentiellement, ce que je fais, c'est un travail de maquette. Ce sont de belles maquettes musicales que j'élabore. Et j'ai toujours composé dans le but... En fait, toujours, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai toujours essayé de faire de la composition en ayant à l'esprit de la musique de film. Et pour créer des ambiances. Puis j'aime la musique, me fait me sentir bien. Et je pense que j'ai réussi à véhiculer ça à travers les différents montages vidéo que je fais sur YouTube aussi, sur la base de ma musique. Les styles sont très variés. Et c'est au gré du temps, littéralement. Selon le jour, selon l'ambiance, selon les émotions que j'ai ce jour-là, bien, je peux composer du rock, je peux composer du jazz, du classique. Et c'est un processus assez spontané. C'est rarement, je dirais, fignolé dans les premiers jets, mais à force de travail, j'arrive à élaborer quelque chose qui se tient.
Et ça puis, nous amène comme auditeurs à faire une balade heureuse avec votre musique. Composition de Pierre Bellefeuille, qui est avec nous, qui est un musicien vraiment éclectique parce que vous jouez plusieurs instruments.
Oui, j'ai joué de la batterie, de la guitare classique. J'en fais plus ça depuis plusieurs années, la guitare électrique, semi-acoustique, jazz. J'ai touché le violon un peu quand j'ai appris à être luthier en 2009, après la crise économique 2008-2009, où j'avais perdu 80% de mes revenus. Je travaillais beaucoup à l'époque comme pigiste pour l'Université d'Ottawa, comme graphiste. Et finalement, j'ai dit, j'avais toujours été attiré par la lutherie. J'ai appris à construire des violons avec Peter Mac à Anmer, qui lui a fait ses classes en Italie pendant 5 ans avant de s'établir au Canada. Et j'ai pu bénéficier de l'expérience d'un luthier ayant plus de 35 ans d'expérience. J'ai aussi fait énormément de recherches avec tout ça. Donc, pour revenir à... j'ai perdu le fil un petit peu, là. Je me suis égaré dans mes idées un petit peu.
Ouais, mais on parlait de l'éclectisme l'éclectisme. Plan des instruments c'est que ça. Vous pouvez donc, interpréter et donc, jouer.
C'est ça, j'ai appris à jouer du violon en même temps. C'était pas nécessairement un résultat très heureux parce que ça demande beaucoup de pratique, une finesse de jeu que j'avais pas, mais j'aimais ça. Puis mon premier réflexe, encore une fois, c'était d'essayer de composer au violon. Comme j'ai joué longtemps un instrument harmonique, faire des accords au violon, qui est, pour la plupart des violonistes, assez difficile, moi, j'arrivais à le faire, enchaîner les accords, je cherchais l'harmonie. Mon premier réflexe, c'était de mémoriser la touche en entier avec les notes et ensuite de commencer à improviser au violon et puis d'essayer de composer. Je suis arrivé à faire des choses, mais je les ai jamais enregistrées parce que j'avais définitivement pas la finesse de jeu qu'il faut pour que ce soit diffusable, dis-moi.
Là, je vais vous amener dans un univers qui va sûrement vous plaire, celui du Brésil avec la bossa nova. Je vais vous faire entendre une pièce qui a connu un très, très grand succès, interprétée par la regrettée Elis. Et vous allez sûrement, Elis Regina, bien sûr, la pièce c'est Sacine der Cerco Voce, ça ne pouvait être qu'avec toi, une pièce qui a été composée par Antonio Carlos Jobim. Alors on se trempe dans cet univers de la bossa nova et on poursuit avec Pierre Bellefeuille tout de suite après. Só de você.
você, você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Foi só de você, e você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você, e você sempre foi só de mim.
Vous aimez ce rythme bossa nova, Monsieur Bellefeuille?
Tout à fait. J'aime beaucoup les rythmes latins, bossa nova. C'est des musiques entraînantes et qui me reposent aussi. C'est toujours très beau et très stimulant à écouter.
Un mot pour Elis Regina, qui a été une très, très, très grande chanteuse dans les années 60. C'est un peu elle qui a fait découvrir la bossa nova, rythme presque inventé, je dirais, par Antonio Carlos Jobim. Malheureusement, elle est décédée à l'âge de 36 ans d'une surdose d'héroïne ou de cocaïne, je ne sais guère. Oui, elle avait beaucoup de pression, mais elle a marqué vraiment l'univers musical de son pays, je dirais du monde entier, parce que ses chansons chantées en portugais ont fait le tour du monde. Si vous allez au Brésil, on retrouve souvent l'effigie d'Elis Regina, qui est considérée comme une grande icône de la musique brésilienne. Ceci dit, on parle d'icône, on va revenir à ma question presque initiale. Je vous parlais de votre univers familial. Donc là, vous venez de nous dire que vous avez, la manière dont vous avez pris possession un peu de l'apprentissage de différents instruments. Donc, l'univers, à 7 ans, je disais dans ma présentation que vous aviez déjà décidé qu'un jour, vous feriez de la musique. Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans?
Ça reste un peu mystérieux. Puis c'est quand je faisais mon cours en musique classique au Collège Marguerite Bourgeois à Montréal. Et c'était une expérience très intensive pour moi. Je pratiquais 8 à 10 heures par jour. J'étais en interprétation de la guitare classique avec le professeur Claude Reed, qui d'ailleurs avait déjà joué dans Les Sultans.
mais ça, c'est beaucoup plus tard. Mais dans votre tendre enfance, à 7 ans, vous vouliez, je pense, apprendre le piano, mais ça n'a pas été possible.
Non, ça, le piano, pas du tout. C'était la guitare.
La guitare.
Oui, j'ai touché au piano plus tard, parce que c'est un réflexe que j'ai. Dès qu'il y a un instrument, je suis tenté d'aller l'essayer. Puis quand j'étudiais en musique au collège, j'hésitais pas à aller pianoter dans la salle de concert sur les pianos à queue, aux grandes dames du directeur du collège. parce que je suis pas pianiste du tout, là. Mais c'était la guitare. Puis le seul élément qui peut vraiment me rattacher au goût d'apprendre la guitare, c'était le fait que mon père m'avait refusé de toucher la guitare à l'âge de 4 ans environ. J'ai pu satisfaire mes curiosités comme ça.
C'est intéressant. On va pouvoir revenir avec ce refus et ce décès aussi subi qui a été marquant pour le jeune enfant que vous étiez. Mais là, vous allez nous présenter la prochaine pièce, qui est une pièce en plusieurs mouvements, qui a un très beau titre d'ailleurs.
Oui. Émerveillement. Cette pièce-là, je l'ai composé pendant la COVID et c'était une envie irrésistible de composer quelque chose de classique. Je suis allé me chercher un clavier que je n'avais pas, un 88 notes branché en MIDI sur mon ordinateur. Et spontanément, je me suis mis à pianoter, à faire des accords et puis à créer une harmonie. J'ai répété des centaines et des centaines de fois certains passages pour arriver à trouver le ton juste, à créer des contrastes aussi entre les différentes parties de cette pièce-là. Et le mot émerveillement est venu par la suite, mais et j'avais aussi en tête de créer, de faire un montage vidéo qu'on retrouve sur YouTube autour de cette pièce-là. Donc, j'ai commencé de fil en aiguille à improviser, à créer. J'ai fait écouter ça à des amis sur Facebook, des amis bien placés qui ont une bonne oreille et qui m'ont amené à modifier deux sections parce que ça se ressemblait trop par moment. Les silences entre chaque section, il y en a cinq en tout, jouent un rôle, si on veut, de transition, parce qu'il n'y a pas vraiment de transition harmonique entre les pièces. Il y a une c'est ça qui assure la continuité. Et la durée des silences joue un rôle vraiment essentiel. Une seconde de trop, et ce n'est pas la même pièce. C'est un peu, je pense, au niveau du mastering, quand les gens font des albums, c'est vraiment une dimension très, très importante, l'enchaînement des pièces et le délai qu'il y a entre chaque pièce. Ça, même à l'intérieur de certaines pièces, j'ai des silences. Et quand il y a un silence, j'emprunte une autre direction. Mais ce silence-là autorise justement le cerveau à faire la connexion. Le rôle du silence en musique est très, très important sur le plan harmonique.
Alors, on va écouter cela. On doit dire cependant que c'est un extrait parce que la pièce est de plus longue durée, mais on a fait quand même un montage qui, je l'espère, reste fidèle à l'esprit de votre pièce Émerveillement.
Excellent. Merci.
Thank you.
Oui, on peut être émerveillé par ce que l'on vient d'entendre. Émerveillement, tel est le titre de cette pièce composée par Pierre Bellefeuille, qui est avec nous aujourd'hui. Un musicien qui s'est, pourrait-on dire, développé par lui-même, malgré les cours nombreux que vous avez suivis en musique, vous avez expérimenté beaucoup.
Oui. Pour moi, c'est une dimension essentielle de la créativité. J'aime pas me confiner à un style ou un genre en particulier. J'ai jamais cherché à faire un album non plus.
Si je vous disais, Pierre, que oui. Le mot « amour » a été votre fil conducteur, est-ce que je me tromperais?
Tout à fait. L'amour de la musique, l'amour des autres, de la vie en général. L'émerveillement, ça représente tout ça pour moi.
On n'en dira pas plus. On va écouter les mots de Gaston Miron, mis en musique par Jim Corcoran, « Mon bel amour ».
Mon bel amour, navigateur, mains ouvertes, sur les songes, tu sais la carte de mon cœur, les jeux qui te prolongent, et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour, navigateur, et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour, navigateur. Qui ne devine ensemble tout le silence, les yeux pour eux. Ce qu'il nous faut traverser, le pied sucré, ce qu'il nous faut écouter, l'oreille comme un coquillage, dans quel pays du sang bleu, amour et moi, dans l'octave du don, l'oreille comme un coquillage, dans quel pays du sang bleu. Mon bel amour, navigateur. Mon bel amour, navigateur sur la jetée de la nuit, je saurai ma présente. D'un vœu à l'azur ton mystère, déchiré d'un espace, rouge gorge, mon bel amour, navigateur, déchiré d'un espace, rouge gorge, mon bel amour. Navigateur, déchiré d'un espace, rouge-gorge, mon bel amour, navigateur. Thank you.
La musique de Jim Corcoran, sa voix aussi sur les paroles du grand poète Gaston Miron. Amour, vous disiez donc que ça a été comme un fil conducteur dans votre vie. Oui. Moi, j'aimerais creuser un petit peu cette chose dont vous avez fait part en début d'émission en disant qu'à 4 ans et demi, votre père est mort dans vos bras.
En fait, devant moi.
Devant vous.
Je le suivais, il se dirigeait vers la chambre de bain derrière. Il s'est élevé avec une très grande douleur à la tête. Il est en train de faire ce qu'on appelle en anglais un stroke, une embolie cérébrale. Et je me rappelle très bien du médecin qui est passé à la maison, qui voulait lui faire une piqûre. Il avait très, très peur. À ce moment-là, il lui a donné des pilules. Et peu de temps après le départ du médecin, mon père est décédé. Quand on a 4 ans et demi, on réalise pas l'importance d'un événement comme ça dans une vie. On est trop jeune. C'est beaucoup plus tard qu'on fait les liens. C'est moi qui avais annoncé la mort de mon père sur l'heure du midi à mon frère, Michel. Il avait 7 ans à l'époque. On était chez mon grand-père, pas très loin de chez nous. Et il voyait bien que quelque chose n'allait pas. Personne ne lui avait rien dit. Puis je lui ai dit, dans mes mots d'enfant à moi, je dis, Pépé est au soleil. Ouais.
Mm-hmm. Est-ce que vous dites que, c'est, bien sûr, c'est marquant. Quelle influence, à votre avis, a eu ce décès subi pour l'enfant que vous étiez et pour l'adulte que vous êtes devenu?
Ah bon, ça, c'est la portée est immense. On peut jamais sous-estimer un événement comme celui-là. On réalise qu'on peut tout perdre en une fraction de seconde, que la vie est fragile et qu'on doit respecter les autres. On doit pas s'en prendre aux autres pour rien. Il faut se faire respecter aussi. Disons, je dirais que ça m'a donné une individualité très forte. Ouais, un sens aigu de la vie, du caractère unique de chaque vie. Et j'ai compris très rapidement que on n'était pas éternel, si on veut.
vient d'entendre Sensuel, composition de Pierre Bellefeuille. Vous disiez juste avant cette interprétation que la vie, on réalise qu'on n'est pas éternel. Ça, ça change notre façon de l'envisager.
Complètement. Complètement. On prend jamais rien pour acquis. Et on est plus sensible à la souffrance chez l'humain aussi. Mais c'est beaucoup plus tard dans ma vie que j'ai compris jusqu'à quel point l'espèce humaine était une espèce souffrante. Et puis que face à la souffrance, il y a différentes avenues qui se présentent. Certains vont faire la paix avec ça. Ils vont comprendre qu'on doit l'accepter, on doit vivre avec, on ne doit pas faire exprès pour se faire souffrir ou faire souffrir les autres. Mais c'est incontournable. On doit apprendre à gérer ça. Et on développe de l'empathie aussi. Ça, j'en ai toujours eu, là, face à la souffrance chez les autres. Donc, oui, ça a fait de moi quelqu'un... Je vais vous dire une anecdote très simple.
Oui.
Quand j'étais au primaire, puis qu'on chantait Petit Papa Noël dans les chorales, Petit Papa Noël descendrait du ciel. Je ne pouvais pas chanter ça, moi. Donc, je ne chantais pas. J'écoutais.
Ça se comprend.
Et oui, ça se comprend tout à fait. Et parce que mon père, je savais qu'il était parti, puis je savais qu'il ne redescendrait pas très jeune. Et j'en ai jamais voulu à personne. J'ai jamais eu de ressentiment, de colère par rapport à ça, au grand jamais. Mais ça a fait de moi qu'il y a quelqu'un qui a pris un recul par rapport au groupe. Je me laisse pas embarquer facilement dans des manifestations de toutes sortes. J'ai un sens analytique et critique assez développé par les différentes formations que j'ai eues au cours de ma vie, mais aussi parce que j'ai une individualité très marquée, je pense.
Le moment est bien choisi de faire entendre cette pièce de Jacques Berthier, interprétée par la communauté de Taizé, « Mon âme se repose ». Un mot pour parler de Jacques Berthier, qui est né en 1923, qui est mort en 1994. C'est le compositeur et organiste français qui s'est surtout fait connaître pour sa précieuse et surtout importante contribution à la composition des chants de la communauté de Taizé. Pour ceux qui ne connaissent pas cette communauté, c'est une communauté monastique chrétienne écuménique localisée à Taizé, en France, qui a été fondée en 1944 par Roger Schutz, un Suisse, composé aujourd'hui d'une centaine de pasteurs, dirigés par le frère Matthew, un Britannique de confession anglicane. Elle accueille chaque année plus de 50 000 visiteurs, dont beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent y prier, qui viennent chanter, faire des connaissances avec d'autres jeunes des quatre coins du monde. Et on dit que Jacques Berthier a composé jusqu'à sa mort. Il a composé des chants liturgiques très rassembleurs, habités surtout par l'esprit de l'écuménisme. On est d'abord et avant tout chrétien sans nécessairement être anglican, catholique, baptiste ou autre. Et cet esprit écuménique était animé, un peu comme vous l'avez dit tantôt, par une certaine fraternité, une fraternité humaine très importante. Alors, j'aimerais que vous écoutiez tous avec nous ce beau chant de Jacques Berthier, « Mon âme se repose ».
Oh,
Pierre Bellefeuille, est-ce que ce genre de musique, cette pièce qu'on vient d'entendre, « Mon âme se repose », réussit à toucher vos émotions, à toucher votre sensibilité?
Oui, tout à fait.
Oui, allez-y.
Je ne suis pas quelqu'un qui est pratiquant comme tel, mais j'ai la foi en quelque chose de bien plus grand que moi. Ça, c'est clair. On parlait d'émerveillement tantôt, mais très jeune, moi, je regardais le ciel. J'ai toujours remarqué la beauté, les contrastes tous les jours dans le ciel depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 7 ans aussi, et bien avant. Une grande sensibilité à l'environnement, au paysage, à la beauté du monde. Et je me suis toujours senti connecté avec ça.
Par quelque chose de plus grand que soi.
Absolument, absolument. Puis, pour moi, la vie, dans sa plus simple expression, c'est jamais simple. Et j'ai le sens, j'ai la conviction pour moi que la vie, dans toutes ses variations, c'est un miracle.
Mm-hmm.
L'expression même de la vie, il faut comprendre, mettre en relation notre Terre dans un univers aussi immense. Puis, à chaque fois, on se surprend de découvrir la richesse, la diversité de la vie sous toutes ses formes.
Est-ce que ce miracle amène chez vous une espérance?
Ah, tout à fait. Oh, ça, c'est très, très important. L'espoir. Et puis, c'est ce que je me suis jamais donné la mission de sauver qui que ce soit, ni moi-même, mais par la beauté de ce que j'essaye de faire, de transmettre à travers les arts, la peinture, la musique, à travers ça, j'essaie de communiquer le sens de la beauté. Pour moi, c'est très, très important, ça.
D'espérer une suite à tout cela.
Oui, ou une continuité, parce que nous sommes tous que de passage sur la Terre. À tous les 100 ans, c'est à peu près l'ensemble de la population mondiale qui est complètement remplacée. Il faut réaliser ce que ça veut dire. C'est énorme comme changement, et oui, c'est rapide aussi.
Oui, on va se laisser sur cette réflexion. Tous les 100 ans, la population mondiale est complètement remplacée. C'est la première fois que j'entends cette expression, mais ça, déjà, ça dit beaucoup. Le temps de vous dire, Pierre, que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de notre collègue Valérian Fournier. On va vous inviter à nous revenir la semaine prochaine parce qu'on a trop de belles choses à entendre de votre part. Si vous voulez bien accepter cette invitation, vous serez des nôtres la semaine prochaine.
Avec grand plaisir et merci à vous deux, à vous, M. Dubois et M. Fournier.
Bonne soirée. Le temps de se dire au revoir, on va écouter une dernière pièce pour clore cette émission. Et elle est comme toute choisie par rapport à ce que nous venons de dire. Elle a pour titre, et je vous laisse le mentionner, vous aurez le mot de la fin.
Oui, « Oh la vie ». Et bien voilà, c'est ça, c'est la vie. Avec tout ce qu'elle a de plus beau à offrir, sans se fermer les yeux sur... Il y a toujours des contrastes très forts au niveau de la vie. C'est jamais tout noir, tout blanc. Il y a plein de nuances de gris. On a autant d'occasions de se réjouir que d'avoir de la peine de voir ce qui se passe à travers le monde. Dans chaque culture, on trouve des gens capables du meilleur comme du pire. Et à travers ça, ben, c'est la vie, c'est l'histoire de la vie qui se renouvelle, qui se répète. Et à travers ça, je dirais, l'émerveillement me permet à moi, en tout cas comme être humain et comme artiste, d'être résilient.
Alors, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci beaucoup.